Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Papier, une émission de bande dessinée de la station Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Notre équipe est présente au 40e festival de bande dessinée d'Angoulême, d'où nous enregistrons cette émission en ce dimanche matin qui est ensoleillé malgré les prévisions. Johanna et Berthe ne sont hélas pas des nôtres, mais on pense bien sûr à eux. Nous sommes donc, l'équipe est composée aujourd'hui de Thali. Bonjour Thali.
Bonjour Nicolas.
De Stéphane, bonjour. De Philippe.
Bonjour Nicolas.
Et à la technique de Jean-François. Avec nous dans l'auditorium du musée de la bande dessinée d'Angoulême, que nous remercions chaleureusement pour le lieu, il y a également un public en délire. Oh, waouh, super. Nous recevrons dans les deux heures qui viennent six invités de marque. Il y aura tout d'abord Gwen de Bonneval qui nous présentera le professeur Cyclope, un ambitieux mensuel de bande dessinée et de fiction numérique. Puis Geneviève Castré et Thomas Gosselin, deux auteurs talentueux dont les nouveaux ouvrages viennent de paraître à l'Apocalypse. Nous recevrons ensuite Judith Tabois et Alex Pirot de la jeune mais déjà prestigieuse maison d'édition Nobro. Et enfin l'illustre Francky Ballonnet qui représentera les éditions Requin Marteau et nous parlera de l'évolution de leur catalogue. Voilà pour le programme, et nous allons accueillir sans attendre notre première invitée, Gwen de Bonneval. Bonjour Gwen.
Bonjour.
Merci d'être venue si tôt en ce dimanche matin pour l'émission. Alors on va faire une courte présentation. Donc tu as d'abord fait partie de l'Atelier des Vosges en 98, puis année durant laquelle tu vas rencontrer le scénariste Fabien Wellman avec qui tu vas collaborer à plusieurs reprises. Ensuite tu rejoins l'Atelier du Coin en 2002. Avec les membres de cet atelier, tu vas lancer la revue de bande dessinée jeunesse Capsule Cosmique, une enthousiasmante aventure éditoriale qui s'interrompra malheureusement trop tôt. Tout en poursuivant ta carrière d'auteur avec tes complices Fabien Wellman, Everett Tancrel ou encore Mathieu Bonhomme, tu es responsable éditorial de la bande dessinée chez Sarbacane durant quelques années. Tu décides ensuite avec Fabien Wellman, Bruno Hervé-Tancrel et Cyril Pedrosa de lancer un mensuel de bande dessinée et fiction numérique baptisé Professeur Cyclope. Est-ce que ça te semble un bon résumé de parcours ?
Ah mais il est parfait, je vais reprendre le texte, merci de me l'envoyer en fichier.
D'accord, voilà. Ça va, je ferai ça.
Oui, moi je voulais savoir par rapport à justement ton expérience à Capsule Cosmique, puisque c'est un magazine jeunesse que tu as créé il y a quelques années. Qui a malheureusement dû s'arrêter, comme on l'a dit, un peu trop tôt. Et tu relances aujourd'hui un magazine, alors c'est évidemment pas du tout sous la même forme, mais on retrouve quand même de nombreux autres, enfin, pas mal d'auteurs qui sont les mêmes. Et voilà, je voulais savoir quelles leçons finalement tu avais tirées de l'expérience Capsule.
Mais en fait, c'est la première leçon, c'est que ça ne m'a pas dégoûté de refaire des magazines, mais j'ai pris quand même quelques années avant de m'y remettre, fallait le digérer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire de la part des auteurs avec des rendez-vous réguliers comme ça et les revues. Donc, comme c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'y suis retourné. L'autre expérience, c'est une envie d'indépendance, en fait. C'est-à-dire que Capsule Cosmique, ça a été fait par. En fait, ça a été produit par les éditions de Milan à un moment où ils étaient prêts à vendre à Bayard. Et donc on est arrivé à un moment de flou. Ils nous ont accueillis à un moment où ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une ambition sur la distance pour la bande dessinée. Donc finalement, quand il y a eu un changement éditorial, ils ont arrêté parce qu'ils ne voulaient pas soutenir spécialement ni Capsule Cosmique, ni la bande dessinée en général. D'ailleurs, chez Milan, il n'y a plus grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Et là, l'idée avec Professeur Cyclope, c'est simplement de continuer à faire des magazines, à faire un magazine de bande dessinée d'auteurs, et de prendre en main aussi le destin de la société qui accueille le Professeur Cyclope. Donc on est dans une volonté d'indépendance. Donc si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y aura effectivement, on n'aura pas réussi à le faire fonctionner, mais c'est pas ça va, notre destin ne sera pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà à peu près l'expérience que j'ai pu en avoir de Capsule Cosmique.
Et par rapport à, donc voilà, le gros intérêt, c'est le rapport au format, c'est de passer au numérique. Est-ce qu'à un moment, avec les quatre autres fondateurs, vous vous êtes dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il faut le faire, il faut y aller parce que c'est le moment ou jamais. C'est vrai que quand on lisait les ouvrages de Scott McCloud qui paraissaient il y a 10-15 ans où il parlait de la révolution numérique, de tout ce qu'on allait pouvoir faire, et puis on s'est rendu compte, à part des expériences comme par exemple le site Grand Papier ou d'autres, qu'il y a eu assez peu de choses qui ont été faites et que finalement ça a été très... Tout le monde semblait hésiter à se lancer, à y aller. Je trouve que ça arrive finalement très tardivement comme expérience, que ce soit la tienne. David Lloyd a lancé en Angleterre sa revue numérique également cette année. Et donc finalement, ça arrive tard. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y avait un vrai manque qui est un peu incompréhensible ?
Moi, je pense aussi que c'est... Là, c'est lié avec l'arrivée des tablettes, qui a quelque chose d'un peu plus... un peu plus sensible, un peu plus sensuel, même si c'est un outil qui peut paraître froid comme ça, il y a quelque chose dans la navigation, dans la lecture, qui est assez ludique et qui est plus agréable. On peut transporter, on peut l'avoir avec soi comme un livre, finalement. Donc je pense que cet usage un peu nomade, on va dire, de lecture, et il y a une réappropriation, c'est un peu différent de lire sur écran au bureau ou chez soi, quoi. Donc effectivement, il y a eu plein de... C'était difficile d'avoir un usage de lecteur qui reste longtemps derrière l'écran, enfin devant l'écran, pour lire un livre de bout en bout, quoi. Mais nous, on le prend par le biais de la revue, pour avoir des rendez-vous réguliers et aussi pour pouvoir picorer un petit peu. C'est-à-dire que je pense que c'est difficile Il y a beaucoup de gens qui nous disent, bah, moi... L'écran, j'ai du mal parce que j'arrive pas à lire sur l'écran, etc. Donc je pense qu'il y a aussi des freins par rapport à ça. Ouais. Après, il y a eu des aventures quand même individuelles. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté d'avoir des collectifs d'auteurs qui se prennent en main. Il y a aussi, par ailleurs, en France, beaucoup de... Comment dire ? Il y a eu des problèmes entre les auteurs et les éditeurs pour trouver des arrangements sur le numérique, sur la rémunération, etc. Il y a un syndicat qui s'appelle le SNAC, il y a un groupement des auteurs de bande dessinée qui ont voulu, comment dire, il y a eu un bras de fer qui s'est installé entre le syndicat, les auteurs et les éditeurs. Donc au départ, tous les auteurs voulaient trouver des solutions, et puis il y a eu un mur en face. Donc je pense que ça nous a tous un peu secoués aussi. Et comme par ailleurs, il manque des revues d'auteurs, bah, finalement, cette conjonction de choses fait qu'il y a une volonté et une intuition de plusieurs auteurs d'entre nous que l'avenir peut se faire par le numérique, mais aussi par la revue. Ça ne veut pas dire que le papier, c'est fini ou qu'on n'aime pas ça, parce que c'est souvent ce qu'on nous pose comme question.
Alors du coup, je vais essayer de vous en poser une autre, mais on vous a déjà posé aussi peut-être. Mais, donc on a cité une série d'auteurs qui constituaient le groupe de base du professeur Cyclope. Comment vous travaillez concrètement? Comment est-ce que vous travaillez, je dirais, sur la ligne éditoriale, hein, c'est toujours un peu cette question-là qu'on pose. Est-ce que vous avez une sorte de petit groupe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à la fin, tranche? Et est-ce que pour les premiers numéros qui vont arriver là, vous avez déjà finalement beaucoup de propositions, beaucoup d'auteurs qui vous ont contacté? Comment est-ce que vous envisagez ce lancement de Cyclope?
Eh bien oui, en fait on a monté une société qui s'appelle Silicomics, et on a fait les choses, on voulait une proposition qui soit ambitieuse, qu'on puisse payer les auteurs correctement, et qu'on fasse un vrai magazine professionnel, et ça c'est... En fait, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est la nouveauté. Il y avait des gens qui faisaient des choses individuellement, et là, on se dit, bah, on va faire un magazine, on est ensemble, et l'important, c'est du numérique, mais l'important, c'est de faire un magazine qui ait du fond, et qui nous plaise, et qui ait une excitation à le faire, et on espère à le lire. Donc, on s'est regroupé de façon très... très sérieuse en SARL, et puis on a un gérant, c'est Cyril Pedrosa, il fait des tableaux Excel, on se moque un peu en disant qu'il va les dédicacer bientôt à Angoulême en 2014. Il va en vendre plus que de Portugal. Non, en fait, sérieusement, on a un travail de bureau du coup qui est un peu nouveau pour certains d'entre nous. Moi, j'avais fait un peu avec Capsule Cosmique ou Sarbacane, on a un comité éditorial, voilà, de lecture, et puis on choisit, et puis L'éditorial, c'est surtout Hervé Tancrel et moi. En fait, comme c'est une société qu'on va développer différentes choses, j'ai le titre pompeux de directeur éditorial et Hervé Tancrel de rédacteur en chef. Ce qui, voilà, comme ça, on est tous chefs et c'est super. En gros, tout le monde participe, mais on est deux à trancher au final, quoi. Et par rapport aux participations, oui, il y a eu un bouche à oreille, donc on a eu quand même pas mal de propositions. Il se trouve que c'est une revue, donc il faut qu'on ait une cohérence d'ensemble. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ça s'adressait à un public ado-adulte et que c'est plutôt généraliste, il n'y a pas un seul genre. Même si Professeur Cyclope paraît être un peu un clin d'œil aux années 50, au Docteur Cyclope, au film Docteur Cyclope, etc. C'est une volonté de jouer avec plusieurs genres et pas un seul. Voilà. Donc c'est plutôt généraliste. Alors on fait nos choix aussi en fonction de l'équilibre du magazine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois des projets qu'on aime beaucoup, mais s'il y en a trois qui traitent du même sujet, ça va être un peu difficile de le prendre, quoi. Donc on établit des rotations, on essaie que chaque numéro puisse avoir, qu'on puisse un peu picorer de choses différentes, ouais. Une sorte de variété. Et puis des ponts entre les genres et des ponts entre la façon de raconter les histoires. Mais peut-être qu'on va aborder ce sujet aussi.
Bah oui, justement, par rapport au contenu, puisque le premier numéro sort très très bientôt, on peut en voir un peu de preview sur le site et là en images. L'idée semble être quand même de faire coexister une BD dite classique et une BD spécialement développée pour le numérique, comme le projet de Vincent Perriot, où on voit... On n'a pas d'image, je pense, ici, mais on voit, ça défile vraiment sur l'écran.
Celui-là, malheureusement, on n'y sera plus, là.
Ah, bah, ouais. Ok.
Malheureusement. Non, mais ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plein d'autres derrière qui peuvent incarner ce mouvement-là.
Oui, donc c'est vraiment l'idée d'un laboratoire aussi pour expérimenter, justement, toutes les possibilités qu'offre le numérique.
L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de gadget. C'est toujours le fond qui nous intéresse, et c'est de faire un magazine. Mais... On a une boîte à outils, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Si ça apporte quelque chose, s'il y a une narration particulière qui fait que ça amène quelque chose au fond, c'est bien de s'en emparer. Et on va effectivement avoir des récits qui sont plus classiques, de bande dessinée en ligne, avec une narration, une lecture verticale en scroll. Et puis il y a des choses qui vont être, par exemple, il y a des cases animées, il y a par exemple Stephen Villemain qui arrive dans le magazine, qui vient du dessin animé et qui lui fait une proposition qui est assez étrange, qui peut être un peu déroutante, c'est d'avoir donc plusieurs cases animées ensemble. Et on peut se dire, merde, ça c'est pas possible, excusez-moi, zut, ce n'est pas possible, ça bouge en même temps et on devrait choisir, soit ça bouge pas, soit c'est une seule image et puis ça bouge l'un après l'autre, comme le Turbo Média, voilà. Mais il se trouve que dans la narration de Stephen Villemain, comme c'est quelque chose d'un peu bizarre, le fait de voir ces images bouger ensemble amène de la bizarrerie et va dans le sens de son projet. Donc finalement, au départ, nous, ça ne nous plaît pas spécialement que tout bouge ensemble. Et puis, quand il y a quelqu'un qui arrive avec une proposition et qui nous convainc, finalement, on se dit, oui, là, c'est possible. Donc, on reste toujours avec cette ouverture d'esprit de se dire, voilà, le numérique permet certaines choses. Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça ne marche pas? À nos yeux, en fait.
Oui, par rapport à ça, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une volonté généraliste, mais en même temps, vous n'êtes pas... aller chercher des gens qui combleraient des manques d'un spectre généraliste. Ça fonctionne évidemment par quelque chose qui est une proximité d'auteur à auteur et ce genre de choses. Donc il y a le choix passe aussi par là. Le fait qu'on ouvre le champ à un moment donné, c'est parce que quelqu'un qu'on a adoubé et qu'on aime, à un moment donné, propose quelque chose qui est nouveau, mais à qui on fait confiance.
Oui, alors la question c'est quoi en fait? C'est de dire que c'est pas assez...
La question c'est, est-ce que vous avez une approche généraliste volontaire dans laquelle vous allez aller chercher des gens que vous n'aimez pas mais dont le travail viendrait combler un manque?
Ou c'est simplement une ouverture d'esprit
par rapport à des gens que vous...
C'est un peu les deux, hein, parce que par exemple, là en ce moment, on a des projets, on aimerait avoir plus de bandes dessinées d'aventure par exemple, et on sait qu'il y a des choses... Alors il y a une conjonction de choses, c'est-à-dire que si on va chercher la BD d'aventure mais que vraiment sont dans des goûts qui ne nous plaisent pas, effectivement, on ne mettra pas de bande dessinée d'aventure. dans ce cas-là. Mais dans l'idée, on aimerait quand même avoir... oui, si, un spectre assez large, mais c'est, je me souviens avec Capsule Cosmique, on avait ce problème-là. Par exemple, pour les enfants, on voulait qu'il y ait ce souffle-là. Et finalement, en bande dessinée réaliste, dans ce qu'on aimait, on se retrouvait toujours avec Mathieu Bonhomme. Bon, c'est pas un problème du tout pour nous, mais c'est juste qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres dans son registre qu'on pouvait accueillir par rapport à notre grille de goût.
Et là, pour le coup, donc, vous êtes encore en train de chercher certains auteurs, enfin, certains types de pratiques que vous allez associer à le professeur Cyclope.
Ben, on est toujours ouvert. Après, il y a une histoire de timing et de savoir, donc, par exemple, dans les mois à venir, il y a évidemment, heureusement pour nous, les projets sont prévus. Il y a des fenêtres de tir, on va dire, pour des histoires courtes, pour des récits courts, pour participer à l'espace polymédia, c'est un musée à appeler, qui est l'œil du Cyclope, qui est un espace rédactionnel à l'intérieur du professeur Cyclope, où là on fait aussi des expérimentations. Et donc, pour les grandes séries, là, c'est un peu complet pour les mois à venir, mais il faut toujours préparer la suite. Et puis voilà, il y a ces possibilités de collaboration ponctuelle.
Est-ce qu'il y a une volonté de penser malgré tout au livre derrière? C'est-à-dire, est-ce que parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne seront pas adaptables ou qui ne pourront pas être reprises en bande dessinée parce qu'il y a de l'animation, mais est-ce qu'il y a une volonté malgré tout de se dire, est-ce que voilà? Est-ce que les auteurs déjà finalement sont totalement libres de droits? Comment fonctionnent les droits par rapport à ça? Est-ce que après avoir publié sur Professeur Cyclope, ils peuvent en faire des albums derrière? Est-ce que ça a été discuté également?
En fait, il y a les deux, mais on veut que ce soit en deux temps. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un modèle numérique qui se tienne tout seul et qu'on fasse un magazine numérique avec toutes les possibilités numériques. Si on dit aux auteurs il y a un album derrière, il faut penser au papier, ils vont pas y aller, franchement, quoi. Donc on aimerait à terme avoir une collection papier de récits issus du professeur Cyclope, mais ce n'est pas le but ultime. Finalement, c'est un changement de paradigme. C'est d'abord le magazine numérique, et puis plus tard on voit ce qui peut se passer, voilà. Mais ce n'est pas la volonté première, et on ne veut surtout pas mettre ça dans la tête des auteurs, parce que sinon on ne va pas avoir des propositions intéressantes pour le médium lui-même. Et sinon, oui, ce que je n'ai pas dit, et peut-être que du coup on s'associera à eux là-dessus, ils ont envie de ça, c'est qu'on a un partenaire qui est à la chaîne de télé franco-allemande Arte, et il y a deux versions du magazine, et en fait Arte a aussi un secteur d'édition. Donc si on est amené à faire de l'édition, nous on le fera pas nous-mêmes de toute manière, parce que c'est pas notre cœur de métier, c'est pas notre volonté. Et puis ça serait envoyer un mauvais signal. Mais ça veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais on s'associera avec quelqu'un dont c'est le cœur de métier, et sans doute que Arte Édition voudra participer aussi.
Oui, vous avez un partenariat avec Arte, et du coup, si j'ai bien compris, il y a une version du magazine qui sera une version allégée, qui sera lisible gratuitement via leur site internet.
Oui, c'est ça. Il y a une version où il y a environ 60-70% du contenu de Professeur Cyclope. C'est une version en ligne, non téléchargeable, avec un numéro qui chasse l'autre. Et puis pour nos abonnés, on a 100% du contenu, c'est-à-dire une centaine de pages ou une équivalence numérique, parce que voilà, on parle, c'est comme on parle encore en ancien franc, une équivalence numérique de 100 pages, et puis ils pourront le télécharger en s'abonnant. Et puis on a voulu que ce soit pas cher, quoi. C'est-à-dire que si on s'abonne un an, ça sera 3 € le numéro pour 100 pages de BD. Voilà.
Par rapport à cette question de l'argent, on parlait tout à l'heure d'une maturation de l'usage via les tablettes, mais là où il y a aussi quelque chose qui s'est passé, qui est il y a une facilité de paiement en ligne maintenant, ouais. Et une sécurisation qui n'existait peut-être pas à l'époque où Scott McCloud parle du média numérique. Et aussi, il y a une habitude qui a été prise par les gens. Cela dit, il y a encore un pari par rapport à ça qui est celui du payant, puisqu'on sait qu'il y a une espèce de culture du piratage et du libre, de l'open source, ce genre de choses sur le net. Ouais. Et donc il y a un risque non nul qui est pris, qui est une belle gageure de votre part.
Ah oui, mais on prend ce risque-là, on pense qu'on n'a pas le choix en fait. On va être pédagogue, on va expliquer qu'il y a des choses à faire dans le numérique et que faut être constructif. Et la manière dont on le fait, on espère qu'elle va plaire et que les gens vont jouer le jeu parce qu'on s'engage à le rendre facilement accessible, à ce que ce soit pas cher, à rester indépendant. On a un certain nombre d'engagements, on se dit si c'est des valeurs que les gens respectent, peut-être qu'ils joueront le jeu et qu'on sera tous gagnants en fait. On préfère miser là-dessus et être constructif plutôt que d'être dans la parano et dans la peur d'avancer, quoi.
Par rapport à l'idée de peur, donc il y aura une version qui sera téléchargeable sur la tablette. Quel est le système qui a été préféré? Parce qu'on sait qu'en ligne, il y a différentes méthodes qui existent. Celle qui consiste à emprunter quelque part le média depuis un site, celui qui est de le télécharger à ce moment-là, d'en disposer et éventuellement donc avec le risque d'une duplication, d'une copie et d'un piratage. Quelle est l'option technique que vous avez choisie par rapport à ça?
Alors moi, je ne suis pas un grand technophile malgré le fait de vouloir faire du numérique. Donc il y a plusieurs choses en fait. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de standard. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc c'est à double tranchant. Parce que si on va dans une seule direction, il se peut que du jour au lendemain, ce ne soit plus ça qui se passe et puis qu'on ait construit un modèle qui ne tienne plus. Donc c'est vrai que la tablette pour les usages, c'est très intéressant. Mais on l'a aussi ouvert, on a ouvert notre abonnement de professeur Cyclope à d'autres supports. En sachant que c'est vrai que la tablette, c'est mieux parce que c'est tactile et que c'est pensé pour ça. Après, pour la technique, par exemple, si on parle de l'iPad, le problème, c'est que nous, on s'adresse aux adultes. Donc, jusqu'ici, il y a un problème de censure. Je sais qu'ils sont en train de s'ouvrir et on a des solutions. Alors, je suis pas très bon pour reparler de ça, mais je crois qu'on a des solutions pour pouvoir le télécharger sur l'iPad, mais sans être sur l'App Store, en fait. Voilà. Simplement, il y a plus ce réflexe de je suis sur l'App Store et j'achète quelque chose. Donc il faut quand même passer par le site, mais je pense pas que le web soit foutu non plus. Peut-être que les usages vont changer et qu'on va s'habituer peut-être à payer un peu en ligne quand même, quoi. Donc pour revenir à l'iPad, on va avoir rendez-vous là très bientôt avec Apple et donc on va pouvoir aborder ces sujets-là. Et il y a plusieurs solutions. Soit c'est cette espèce d'encapsulage en passant par le site, soit on trouve une solution avec eux directement. Mais on a cette volonté d'être sur d'autres tablettes, les tablettes Android, et puis aussi sur les ordinateurs de bureau. Les smartphones, on peut le lire aussi, mais ce n'est pas hyper pratique pour l'instant, mais ça peut se faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà une base de propositions qui est assez large, et on va l'optimiser de plus en plus. Voilà. Alors, du coup, je ne réponds pas hyper techniquement à cette question.
On n'est pas très technique non plus, je pense.
Pour terminer cet entretien, on peut parler de choses plus pratiques.
Ouais.
Finalement, le premier va sortir le 1er mars, c'est ça?
Oui, c'est
mars.
Ça. Ouais.
Donc il y a un site internet qui est professeurcyclope.fr sur lequel donc on peut déjà voir un aperçu du premier numéro, un sommaire des listes d'auteurs, etc. Ouais. Une bonne présentation. Et puis effectivement, la possibilité de choisir entre plusieurs abonnements, puisqu'il y a par numéro, par trois.
Oui, en fait, là on a un formulaire de pré-abonnement avec une proposition. Si on est dans les 500 premiers abonnés, on a une sérigraphie des auteurs fondateurs. Voilà. Donc on a fait un formulaire de pré-abonnement. L'outil d'abonnement, dans 2-3 semaines, il est en ligne. Voilà, donc, et les formules, c'est-à-dire que soit c'est un achat au numéro, Et là, c'est moins de 5 euros. 4,99, 4,90, je ne sais plus ce qu'on a dit, mais voilà, pour ne pas dire 5. Sinon, c'est pour 3 mois, 6 mois. Et 11 numéros, c'est 33 euros. Donc,
puisque c'est un numéro double.
Il y a un numéro double en juillet-août, voilà. Ouais, tout à fait.
Voilà. En tout cas, un grand merci, Gwen, pour ta visite.
Merci à vous.
Merci.